Question d'islam par Ghalib Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de philosophie. Comment on philosophait à Bagdad au Xe siècle, en contexte islamique, bien entendu. L'exercice de la philosophie était important. Comment se fait-il qu'on a délaissé peu ou prou cette pratique? Et pour en parler, j'ai plaisir à accueillir le professeur Ali Ben Mahlouf. Ali Ben
Mahlouf,
bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie à l'Université Paris-Est Créteil. Vous êtes philosophe des sciences. À la fois, vous connaissez bien l'œuvre d'Averroès, mais aussi celle de Montaigne, de Frege, de Russell, du Cercle de Vienne, d'une manière générale. Vous êtes membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie et vous êtes aussi membre de l'Institut universitaire de France, auteur de nombreux ouvrages. Nous avons plaisir à parler avec vous de la philosophie et de cette philosophie en contexte islamique. Première question, Ali Ben Mahlouf, comment se fait-il que cet engouement pour la sagesse, cette motivation, cet enthousiasme pour l'héritage des Grecs, pour les philosophes hellénisants musulmans, s'est peu à peu estompé? Et pour certains maintenant, certains radicaux comme on dit, c'est devenu quasiment un exercice impie.
En réalité, depuis le moment où cette philosophie a émergé dans ce contexte musulman, elle a toujours eu des soucis pour trouver sa place. Comme elle ne s'est pas mise sous la tutelle de la théologie, tout en réfléchissant fortement sur le message religieux, grande différence entre religion et théologie, mais elle ne s'est pas mise sous la protection de la théologie, elle a toujours eu une vie précaire. Alors, effectivement, cette vie précaire peut sembler moindre à nous aujourd'hui dans sa réalisation médiévale, mais tout de même, les œuvres d'Averroès ont été brûlées, celles d'Al-Razali aussi. Al-Farabi, dont on parle aujourd'hui, a dû quitter Bagdad pour Alep parce qu'il y avait un climat de dissension politique. Ces philosophes ont eu la protection politique ou la protection des vizirs pour pouvoir mener à bien leurs travaux. Mais n'oublions pas que même durant ces siècles médiévaux, où cette philosophie était florissante, elle était quand même assez précaire. Aujourd'hui, ben écoutez, je peux vous répondre pour aujourd'hui, c'est un immense désastre éducatif. Tout passe par l'éducation. Eh bien, ces philosophes ne figurent pas en bonne place dans les systèmes éducatifs. Et moi, je ne veux pas les opposer à la théologie aujourd'hui. Eux avaient pris leur distance autrefois avec la théologie, mais je pense que nous avons besoin, plus que jamais, d'une hybridation entre le savoir dit profane, philosophique, et le savoir sacré. Et c'est de cette hybridation que la religion s'en trouvera mieux, parce qu'elle sera en quelque sorte comme éclairée par ce savoir, et le savoir profane lui-même s'inscrira beaucoup plus dans l'ordre sociopolitique qu'il ne l'est aujourd'hui, où il apparaît, comme vous l'avez dit si bien, délaissé, écarté, marginalisé, le propre de quelques personnes qui semblent un peu comme des âmes isolées.
Alors, vous parlez dans un de vos ouvrages comment philosophe, alors philosopher à l'infinitif à Bagdad au Xe siècle. En réalité, la spéculation, la réflexion philosophique, le fait de s'adonner à cet exercice de la pensée, si on affine un peu le temps, a commencé en gros par Al-Kindi, Al-Kindus des Latins, mort en 872-73. Donc on est en plein 9e siècle et c'est fini avec qui? Avec Averroès, ou on peut pousser un peu plus tard dans le temps avec Ibn Khaldoun?
Moi, j'aimerais bien dire qu'il n'a jamais fini.
Ah oui, parce que vous en êtes un digne héritier, successeur et continuateur, Ali Ben Mahlouf.
Non, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que le paradigme de la langue arabe s'est affaibli il est vrai, il était assez universel, un peu comme ce qu'a pu être la langue française au XVIIIe siècle, où Leibniz écrivait en français, Catherine de Russie correspondait en français. L'arabe a été, durant cette période que vous avez bien circonscrite, 9e, 14e siècle, a été véritablement un véhicule de plusieurs nations qui s'y retrouvaient. On pouvait être persan, écrire en arabe, turc, écrire en arabe, enfin, ce qui est devenu la Turquie aujourd'hui.
Et de confessions différentes, zoroastriens, juifs, chrétiens,
et
parler arabe, écrire en arabe.
Voilà. Alors, c'est cela qui s'est perdu beaucoup plus que l'activité philosophique elle-même. J'en veux pour preuve, si vous voulez, qu'entre le XVIe et le XIXe siècle, avant le démantèlement des écoles traditionnelles par le colonialisme européen, du XVIe au XIXe siècle, il y a eu plusieurs niches philosophiques dans ce qu'on appelle les zaouïettes. Ce sont des localités d'orientation religieuse et parfois mystique qui ont beaucoup recopié les manuscrits. Je vois dans le sud marocain, il y a jusqu'à aujourd'hui des gens qui lisent l'Organon d'Aristote en arabe, qui le commentent. Simplement, ces petites localités très décentrées n'ont pas assez de visibilité. Mais entre Fès, Tlemcen, Grenade, Tombouctou, durant ces trois siècles, 16e, 19e siècle, il y a eu une grande activité qui nous est aujourd'hui peu connue, peu documentée quant à son rôle philosophique, mais elle était là. Et il est vrai que de Ernest Renan au regretté Mohamed Harkoun, il y a eu quand même cette idée que quelque chose s'est éteint depuis Averroès, mais moi je ne suis pas de cet avis.
Alors, nous l'entendons et je retire ce que j'ai dit par rapport à cette limite supérieure dans le temps, comme quoi il y a eu une sorte d'extinction de la réflexion philosophique. Merci en tout cas de l'avoir dit. Il y a eu tout de même de la braise sous la cendre, quelque chose comme ça.
Oui, l'Empire ottoman, même si les gens continuent à parler arabe, etc., il y a quand même, l'arabe a été moins une langue motrice de traduction comme elle l'avait été, et en ce sens, c'est pour moi plus un problème linguistique que philosophique, du fait qu'effectivement, une langue ne s'enrichit, ne se développe qu'en traduisant, et on ne peut pas nier qu'elle a moins traduit depuis, effectivement, la fin du Moyen-Âge.
Bien, alors revenons cette fois-ci, simplement on prend ça comme au théâtre, il faut une unité de temps, une unité d'action et dans l'espace. Nous sommes à Bagdad, on est au Xe siècle, il y a un acteur, un protagoniste, un personnage qui passe pour un esprit universel. Vous avez pris Al-Farabi, l'Alpharabius des Latins, un homme né en 872 au Farab, en Transoxiane, dans le Gentilé, donc Al-Farabi, est mort à Damas en 950. Qu'est-ce que vous connaissez de plus de sa trajectoire de vie ?
Alors, il a effectivement rejoint Bagdad et rejoint la grande école de logique, où s'était déjà illustré Abou Bishr Matta.
Il fut son disciple.
Exactement, Al-Farabi fut son disciple. Il y avait cette école qui était bien constituée par déjà l'univers de traduction d'El-Kindi, qui le précède dans le temps. El-Kindi meurt au moment où Al-Farabi naît, mais il y a quand même un petit flambeau maintenu. Si Al-Kindi s'était beaucoup mis dans les questions métaphysiques de l'Falsafa al-Oula, philosophie première, Al-Farabi, lui, va s'attaquer au corpus logique en raison de ce contexte qu'il trouve précisément à Bagdad, représenté par Abou Bishr Matta, comme je disais, et qui aura une belle continuité de son vivant et un peu après, avec Ibn Adi, avec Amiri, avec Tawhidi, avec Sijistani. Ce sont des noms, si vous voulez, qui font une constellation à Bagdad autour de l'intérêt pour ilm al-lugha, science de la langue, science du langage on dirait aujourd'hui, et bien sûr les sciences de la logique, le corpus aristotélicien. Voilà comment il vit. En 942, il est inquiété précisément parce qu'il y a beaucoup de dissensions politiques à Bagdad et le calife qui le protège est mis à mal et donc il quitte Bagdad pour Alep où il trouve effectivement refuge et il a thématisé cette idée
auprès de Saif ad-Dawla, l'émir d'Alep.
Exactement. Et il a lui-même thématisé cette vie en danger du philosophe. Il connaissait bien évidemment ce qui était advenu à Socrate. Et il disait, effectivement, on peut se retrouver mis en danger dans une cité corrompue, dans une cité où les gouvernants ne sont pas vertueux. Ce sont ses termes. Et de ce point de vue-là, on est comme, il prend une image de greffe, on est comme un animal à qui on a greffé une patte appartenant à un animal d'une autre espèce, c'est-à-dire une forme de monstruosité, et que le salut peut venir du fait de migrer vers une cité plus clémente, et c'est ce qui lui est advenu.
Et ce qui l'a motivé ou poussé, en tout cas, à composer, je vous pose la question, professeur Belmakhlouf, sa cité vertueuse. Le titre exact étant « Les avis, les opinions des habitants de la cité idéale ».
Effectivement, c'est un ouvrage majeur et je crois très intéressant dans le paradigme philosophique de ce qu'il a tenté de faire. Il connaissait très bien la République de Platon, il connaissait les lois de Platon dont on pourra parler si vous voulez parce que son résumé des lois de Platon figure dans cet ouvrage que j'avais fait paraître et qui est de nouveau réédité, Al-Farabi, philosophie à Bagdad au Xe siècle. Et donc cette cité vertueuse doit beaucoup au paradigme platonicien, mais pas seulement par rapport à ce que je disais aussi. Et en fait, j'emprunterai volontiers l'expression à Léo Strauss qu'il s'agit de l'autre cité. L'autre cité, ni tout à fait idéale, ni tout à fait réelle, ni tout à fait idéale, c'est-à-dire ce n'est pas une simple construction théorique, ni tout à fait réelle parce qu'elle n'existe pas, mais il s'agit en quelque sorte de construire un étalon de mesure susceptible de permettre de voir ce qu'on peut avoir réalisé de la vertu dans une cité et l'autre cité, Léo Strauss dit c'est une cité de discours, mais plus qu'une cité de discours, c'est d'arriver en quelque sorte à avoir un étalon de mesure. Et un étalon de mesure, ce qui le distingue d'une idéalité, c'est que il ne vous contraint pas à réaliser cet idéal. Ce n'est pas un idéal contraignant, c'est un étalon de mesure qui vous permet de savoir ce que vous avez réalisé jusque-là des bonnes institutions. Et dans les lois de Platon, qui est un ouvrage quand même très très orienté vers l'administration d'une cité dans son effectivité, il va parler de l'importance des conseillers pour le prince, comment les choisir, de la manière dont on doit se soucier de l'irrigation et des canalisations, de la manière dont on doit commémorer les dates importantes pour activer le sentiment d'appartenance, de la manière dont on doit faire très attention à ce qui rassemble les individus comme les chants, durant les fêtes pastorales, par exemple, parce que le législateur doit toujours être à l'écoute de ce qui rassemble les individus. Et donc, c'est la loi qui s'inspire de la poésie. En ce sens, si vous voulez, c'est une idée platonicienne qui aussi, si on fait de la philosophie comparée, se trouve dans les textes chinois, où les empereurs envoyaient toujours leurs secrétaires aller écouter dans les fêtes pastorales ce qui se dit, selon les travaux de Marcel Granet. Et donc, voilà, inspiré complètement par les lois de Platon, il arrive à faire une cité que je dirais pas idéale, mais que je dirais effectivement un étalon de mesure pour voir ce que l'on peut réaliser, ce que l'on a à réaliser, ce que l'on pourrait réaliser. C'est plus, oui, des modalités de réalisation que des contraintes de réalisation.
Ali Ben Makhlouf, si je vous ai écouté avec beaucoup d'intérêt, et donc je ne dirais plus cité idéale ou cité vertueuse, selon les traductions désormais consacrées, qu'il faut revoir. Et donc, j'ai entendu que la législation s'inspirait aussi de la poésie. Ça sous-entend qu'à ce moment-là, eu égard à la hardiesse de la pensée et l'audace intellectuelle d'Al-Farabi, la conquête du bonheur et la quête du salut pouvaient ou devaient même se faire dans cette cité un peu intermédiaire ou qui est un étalon de mesure, sans le secours ni le recours explicite ou implicite à la révélation, puisque la législation devient en quelque sorte une inspiration de la poésie et non pas d'un texte révélé.
Oui, alors en fait, on peut être dans une forme de complémentarité sans exclusive, c'est-à-dire que la religion, il va écrire un ouvrage qui est Kitab al-Milla, le livre de la religion, et le compendium des lois de Platon, le résumé des lois de Platon, le Mortassar, le traité qui condense le travail de Platon, revient aussi sur la loi divine. La loi divine entendue comme une loi excellente, une loi de perfection. Donc ce n'est pas tellement, il ne va pas tellement insister sur l'idée d'inspiration divine, il va plus insister sur la notion de perfection. C'est en ce sens que beaucoup ont pu dire qu'il a laïcisé en quelque sorte la notion de loi divine, parce que dans divin, il retient, si vous voulez, l'équivalent notionnel de perfection. Ceci pour l'aspect religion et révélation. Et pour l'aspect poésie, il est très conscient que ce qui se récite, comme je disais tout à l'heure, le législateur s'inspire de ce qui rassemble les individus, les agglomère, les agrège. Eh bien, la poésie, si vous voulez, c'est ce qui est récité par tout le monde à chaque moment, et elle est un discours agencé, proportionné, et l'aspect mesuré de la poésie par son rythme, sa mélodie et son discours imitatif des choses, comme disait déjà Aristote dans la Poétique, eh bien, imitation, rythme et mélodie font une proportion et un agencement qui donne comme une image de ce qu'est l'âme dans ses bonnes dispositions. Et du coup, comme le législateur cherche à faire que ces âmes, dans l'expression de leur volonté, soient toujours en proportion avec elles-mêmes et avec les autres, la poésie devient un élément majeur. Sans compter, je le disais, que tout de même, dans cette culture qui se construit, dans cette culture arabo-musulmane, il y a toujours eu les deux référents qui ont été en quelque sorte en hybridation, le référent de la poésie anti-islamique et le référent religieux. Des gens comme Al-Jahid au IXe siècle, comme Ibn Qutayba, ont construit un adeb, une littérature de l'honnête homme, dirions-nous, une forme d'humanisme qui a toujours été très attentif à l'osmose entre la poésie anti-islamique, culture profondément arabe, et le référent religieux qui est advenu au 7e siècle.
Alors, Al-Farabi, de nos jours, nous aurions parlé de souche, même si le mot est un peu problématique, de souche persane, s'exprimant dans les deux langues, mais davantage en arabe, en l'espèce, pour sa philosophie. Elle était connue plus tard par la pensée postérieure comme étant le second maître, c'est Maïmonide qui l'appellera ainsi, étonnamment aussi comme étant le fils de Platon. Le second maître, c'est en référence à Aristote. Donc à la fois il tient d'Aristote et aussi de Platon, et lui-même a voulu harmoniser la pensée des deux sages, comme il le dit si bien.
Oui, tout à fait. Alors, il y a toute une polémique sur la traduction qui a été faite par Dominique Mallet de Kitab Jama Bayn al-Hakimayn, le livre de l'harmonie entre les deux sages, Platon et Aristote. Certains disent que c'est peut-être pas un ouvrage d'Al-Farabi. En tous les cas, il a évolué dans cette idée que pour justifier la pratique philosophique, il fallait en quelque sorte reconnaître qu'il y avait un message en osmose et complémentaire des philosophes grecs, puisque beaucoup ont pu dire, dans son contexte à lui, de Bagdad, pourquoi apprendre les philosophes grecs puisqu'ils se contredisent entre eux? Qu'est-ce que c'est que cette transmission de la contradiction? Eh bien, il fallait en quelque sorte travailler sur deux objectifs. Le premier, c'est de dire qu'il y a en réalité un même souci méthodologique en philosophie, c'est le souci qui est orienté vers la recherche des raisons et des démonstrations. Al-Hujjaj wal-Barahin, ça c'est un point très très important, c'est-à-dire que on avance par esprit, on dirait esprit critique aujourd'hui, mais par proposition, objection, réponse à l'objection. C'est ça qui structure la gymnastique de l'esprit pour être dans une forme d'autonomie. Donc, il y a un souci méthodologique très important. Et ce souci méthodologique, on l'a aussi bien chez Platon que chez Aristote. Et c'est cela l'enseignement majeur de cette philosophie qui fait qu'on peut les harmoniser. Il y a un même souci de la démonstration, sauf qu'il prend une forme allégorique avec Platon et il prend une forme tout à fait pédagogique, nous dirions, étape par étape, logique en tous les cas, avec le grand respect des grandes opérations de l'intellect, comme concevoir, juger, raisonner, définir. Et en fait, vous voyez, c'est ce souci méthodologique qui fait que l'enseignement des Grecs est reconnu. Et l'autre versant, puisque je disais qu'il y avait deux objectifs, l'autre versant, c'est qu'effectivement, ils sont labellisés, ces philosophes, comme des sages, hakimain. Pourquoi? Parce que le mot falsafa, comme vous le savez, ne figure ni dans le texte sacré, ni dans les hadiths du prophète. Et donc, comment justifier cette pratique? Eh bien, on la justifie en la labellisant sagesse, parce que le mot hikma, il se trouve dans le Coran. « Wa'allamnakum al-kitab wal-hikma » Nous vous avons enseigné le livre et la sagesse. Et précisément, cette sagesse va être labellisée philosophie. C'est un peu sous couvert du mot de sagesse que la philosophie va acquérir son droit de cité dans ces cités musulmanes.
Et en arabisant tel un néologisme, le mot philosophie en falsafa.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن لا إله إلا الله.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Ali Ben Makhlouf. Nous parlons aujourd'hui de philosophie et comment on philosophait à Bagdad au Xe siècle, dans les contextes islamiques de l'époque, à travers la figure centrale du philosophe Al-Farabi, l'Al-Farabius des auteurs latins, et tout particulièrement aussi, parce que vous avez traduit son livre, vous-même vous le dénommez dans votre traduction le livre de la religion, certains disent le livre de la foi, mais en réalité c'est le livre de la religion. Ali Ben Makhlouf, pourquoi d'abord vous avez choisi Al-Farabi comme figure emblématique et identificatoire de l'exercice philosophique à Bagdad? Et puis, de toute son œuvre, pourquoi vous avez choisi ce livre-là?
Bien, alors, petite précision, cet ouvrage donc qui est apparu au Seuil en 2007 et qui est réédité aujourd'hui, Al-Farabi, philosophie à Bagdad au Xe siècle, c'est un ensemble de textes traduits non pas par moi, mais par Stéphane Dibler, regretté Stéphane Dibler, avec qui j'avais tout un projet de traduction de l'Organon d'Averroès d'un côté, et cela nous l'avons traduit ensemble, mais pour Al-Farabi, il s'était attelé à ces textes-là, le livre de la religion, mais aussi, puisque...
Et d'autres textes.
Et d'autres
aussi.
Textes, effectivement, sur notamment les préliminaires en philosophie, le résumé des lois de Platon, et différents petits opuscules sur le statut de la poésie, l'imitation, la suggestion. Faut-il l'entendre comme un discours simplement imitatif ou bien un discours syllogistique qui présente une forme de raisonnement. Donc, ça c'est pour la confection un peu de cet ouvrage. Et le choix de Kitab el-Milla, je pense qu'effectivement, pour un philosophe, moi c'est ce qui m'a intéressé.
Traduit par le livre de la religion.
Le livre de la religion. Milla, aujourd'hui, beaucoup entendent par Milla un peu un synonyme de Umma, de la communauté religieuse, livre de la religion. Ce qui est très important d'un point de vue philosophique, c'est qu'Al-Farabi ne parle à aucun moment dans cet ouvrage de la religion musulmane. C'est vraiment un travail philosophique sur le statut d'une religion entendue dans le cadre d'une cité. Qu'est-ce qu'il advient de cela ? Et je pense véritablement aujourd'hui que nous... Nous avons besoin d'une philosophie de la religion. Qu'est-ce que je réponds à votre question, pourquoi avoir présenté ce texte ? Moi, je me suis contenté donc de faire la présentation de ce texte que Stéphane Dibler avait traduit. Pourquoi ? Parce que précisément, notre engagement actuel dans la laïcité, telle qu'elle est exprimée par la loi de 1905 en France, ne doit pas nous interdire de réfléchir sur ce que peut être une philosophie de la religion. On peut regretter, et je le regrette comme Léo Strauss, on peut regretter que la philosophie de la religion ait pâti un peu du climat de laïcité. Ce n'est pas parce qu'on fait de la philosophie de la religion qu'on va critiquer la laïcité, au contraire, comme je vais le montrer dans ce Kitab el-Milla. Et donc, il fait une réflexion Al-Farabi sur la religion dans ce cadre-là, dans le cadre donc d'une cité, qu'est-ce qu'il advient de la religion, et il explique qu'il peut y avoir une inspiration religieuse dans la confection des lois, mais que dans ce cas-là, il faut être très attentif à la continuité de la loi et sa dynamique qui fait qu'on ne peut jamais en rester à la première expression de la loi. Il parle du premier chef, un peu comme Rousseau parlerait du premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouva des gens assez simples pour le croire, ce fut le vrai fondateur de la société civile, dit Rousseau. Donc il y a des événements de pensée où on dit « le premier qui », lui pour Al-Farabi, pardon, le premier chef, Al-Ra'is al-Awwal, le premier qui a confectionné la loi, il ne peut pas avoir tout prévu. Et donc, pour une réflexion sur la loi d'inspiration religieuse, il faut à chaque fois s'intéresser au contexte où la loi advient, reconnaître qu'on transforme, dit-il, et altère la loi du premier législateur, parce que si ce législateur se réincarnait parmi nous, eh bien, il nous donnerait raison d'avoir fait cette modification, non pas parce qu'il se serait trompé, mais parce que ce qu'il avait légiféré était conforme à son temps et non pas au nôtre. Et je pense que c'est des enseignements importants autour, dans le monde musulman, du statut de la charia. Il emploie le verbe qui est beaucoup plus significatif que le nom,
que le substantif.
Shara'a et qaddara, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que ce travail de faire de la législation plutôt que de penser qu'il y a quelque chose qui est frappé d'une immunité intrinsèque et qu'on appellerait la sharia. Et shara'a et qaddara, il emploie aussi le mot réglementer comme synonyme dans son artisanat philosophique de construction de cet ouvrage, comme synonyme du verbe shara'a, c'est-à-dire qu'on légifère et réglemente, et du coup, le mot légiférer perd cette atmosphère religieuse dans laquelle on veut absolument l'enfermer de manière exclusive. C'est cela, si vous voulez, moi, qui m'intéresse dans cet ouvrage. Et il indique que le travail jurisprudentiel qui vient après ce travail législatif suppose qu'on connaisse la langue du premier législateur, la langue du parler de sa propre société, avoir une bonne compétence linguistique, avoir une bonne compétence logique, et précisément, c'est cela qui peut faire qu'un corpus même d'inspiration religieuse puisse s'adapter et trouver en quelque sorte son statut. Je crois que c'est un enjeu très très important pour les sociétés arabo-musulmanes, mais aussi de réflexion pour les sociétés très laïques, de se dire c'est quoi que s'inspirer d'un ordre religieux sans prétendre y trouver tout, sans confondre la source et le contenu. C'est quoi précisément de toutes les constitutions aujourd'hui des sociétés arabo-musulmanes indiquent que la charia est une source. Ça veut dire quoi une charia est une source? Eh bien, quand on lit le travail de philosophique d'Anna al-Farabi, on arrive à se constituer des outils méthodologiques pour attaquer ce mastodonte qu'on appelle la charia.
Oui, dans votre long développement, mais pardon quand je dis long, c'est qu'il est intéressant et que je ne voulais en aucun cas et d'aucune manière vous interrompre, j'ai noté trois idées maîtresses. La première, c'est que nous avons besoin d'un investissement intellectuel aussi bien pour le principe de la laïcité que de revenir à ce que vous avez appelé à juste raison la philosophie de la religion, et que cette désaffection ou ce délaissement de l'exercice philosophique, et notamment pour la religion, et tout particulièrement au contexte islamique contemporain, est préjudiciable, alors qu'au Xe siècle, quelqu'un comme Al-Farabi s'y est intéressé, et non pour désigner spécifiquement la religion islamique. Le deuxième point, c'est aussi la législation, la fabrique de la loi, et en quelque sorte, nous aurions parlé de nos jours des fondements du droit, et que, troisième idée, c'est que c'est la société ayant évolué, eh bien, le droit s'adapte, et il n'y a pas une sorte de droit immuable qui corsette la dite société et qui l'affiche dans le temps.
Tout à fait. Moi, je suis très admiratif des travaux que mène à l'Université de Columbia, département Middle East, Moyen-Orient, mon collègue Wa'il Hallaq, qui a publié plus de 5 ouvrages sur la charia et qui précise clairement que cette notion est flexible et non pas rigide, et que le colonialisme européen a sa part dans le démantèlement de la charia au XIXe siècle, quand il a précisément considéré que c'était quelque chose d'obsolète et de rigide, qui n'a pas évolué, par extrême ignorance des siècles et des siècles depuis la fin du 8e siècle, des siècles et des siècles de constitution d'une loi en processus évolutif, comme vous l'avez si bien dit, en processus évolutif à la manière et à l'image de la société dont la loi est le miroir. Et cette flexibilité, cette pluralité qui est historiquement attestée à travers la notion de charia, c'est devenu quasiment inaudible aujourd'hui, parce que quand on dit le mot, on a l'impression que c'est un code enfermé dans le Coran et que l'on ne fait que l'appliquer de manière répétitive et violente comme forme de déni manifeste des droits de l'homme. Il me semble que une réflexion et une bonne connaissance de ce que vous avez appelé les fondements du droit au sol, al-fiqh, la manière dont cette législation s'est faite dans ces pays-là, avec le formidable pluralisme, malikisme, chafiisme, hanbalisme, hanifisme sur le statut des...
Là, vous nous avez parlé des 4 grandes écoles juridiques dans l'obédience sunnite.
Voilà. Et avec le statut, ce sur quoi on peut faire consensus collégialement sur une question, sur le statut du raisonnement, du qiyas juridique, son rapport au syllogisme théorique, l'aqli, sur les différents cas qui peuvent se présenter à, dans leur complexité, leur aspect dilemme pour un juge qui s'informe auprès d'un mufti qui, lui, a la science précisément de l'érudition et la science et l'érudition nécessaires pour aider le juge à aplanir les difficultés. Enfin, c'est un monde de réflexion qui, à mon avis, ne peut pas être mis comme ça sous le tapis, comme une poussière ou un élément obsolète.
Et qu'à un moment donné de l'histoire, et je pense tout particulièrement au XVIe siècle, on en est loin du Xe, qui sous le sultan Suleyman le Magnifique,
oui.
On l'a affublé de l'épithète magnifique en Occident, en Europe, mais il était connu aussi par deux autres adjectifs qualificatifs. Le bâtisseur, ça ne nous intéresse pas parce que il a restauré les remparts de Jérusalem et puis il a ordonné la construction de la Souleymaniyye, mais surtout il était connu comme étant le législateur, ce qui sous-entend qu'il y avait un droit de type séculier en son temps et qu'on ne s'embarrassait pas des questions liées à la charia comme quelque chose de figé. Au contraire, il y avait une sorte d'émanation rationnelle à accompagner l'évolution de la société en la régulant par la production du droit.
Oui, tout à fait. C'est cette tradition ottomane à laquelle vous faites allusion est très importante, d'autant plus qu'elle fut toujours très respectueuse des différents droits engagé dans toutes les, par exemple, toute l'Europe, ce qu'on appelle l'Europe centrale aujourd'hui et qui était sous le joug de l'Empire ottoman. Et Montaigne, contemporain de cette période, ne cessait de dire que cet Empire ottoman avait agi avec ses colonisés, entre guillemets, exactement comme l'Empire romain avec ses colonisés, c'est-à-dire avec subsistance, maintien des rois locaux et des gouverneurs locaux, avec aussi subsistance et maintien des traditions locales, sans colonisation de population, sans migration des populations à partir de l'Empire ottoman. Les Turcs n'ont pas été partout en masse, si vous voulez, c'est pas une colonisation comme on l'entend aujourd'hui précisément. Et donc, par le fait qu'il, ça va de pair avec ce que vous disiez, la manière qu'il a de légiférer pour son, ses cités immédiates, si je puis dire, va de pair avec le respect des autres lois. Il ne s'agit pas du tout de faire de la charia hégémonique. Et il s'agit effectivement de la reconnaître dans sa souplesse et dans sa flexibilité, ce qui devient, je le disais, quasiment inaudible aujourd'hui, aussi bien en Europe, dans ce que l'on peut entendre tous les jours dans les nouvelles, que, effectivement, chez les salafistes musulmans. Et par moments, moi, je regrette tellement que nos médias éclairés des démocraties occidentales pensent que l'islam se réduit à ce que en font les salafistes.
Et les salafistes eux-mêmes, dont l'étymologie renvoie au fait de coller l'activité, au comportement et à la pratique des pieux anciens. Or, à Bagdad, au Xe siècle, si on s'intéressait aux anciens, al-Qudama, ce n'est plus au Salaf, c'était plutôt les Grecs.
Oui, les anciens, c'était effectivement les Grecs. On ne les rapportait pas du tout à une ethnie, à un particularisme, à de la diversité culturelle, comme on dirait aujourd'hui. C'était simplement les anciens et eux qui étaient précisément dans l'actualité de ce qu'ils faisaient. Sur le mot salafisme, il mérite aussi beaucoup de nuances, parce qu'aujourd'hui, il prend cette forme rétrograde réelle d'ignorance que Olivier Roy a bien mise en évidence. Une religion déconnectée de la culture produit beaucoup d'ignorance. Mais le mot, effectivement, quand on le rapporte à ce qu'en ont fait la renaissance humaniste égyptienne au XIXe siècle, c'était aussi des salafistes, et pour eux, c'était relire la tradition musulmane à la lumière des lumières européennes pour arriver à faire une émancipation de l'homme moderne du 19e siècle, une émancipation que cet homme moderne soit réconcilié entre l'héritage des Lumières et l'héritage précisément, du coup cette fois-ci ancien, au sens non pas des Grecs, mais ancien au sens de ces philosophes et de ces fuqaha, de ces jurisconsultes de l'époque. Et à chaque fois d'ailleurs qu'on cherche en quelque sorte un modèle d'émancipation, regardez pour les Lumières, on va chercher dans la culture gréco-latine, on active un modèle ancien qu'on pense avoir été opératoire. C'est donc dans Salaf, retour, il ne faut pas penser qu'il n'y a que du rétrograde, il peut y avoir une activation d'un modèle d'émancipation, ce qui fut le cas pour la Renaissance humaniste égyptienne au 19e siècle.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Ali Ben Mahlouf. Ali Ben Mahlouf est professeur de philosophie à l'Université Paris-Est Créteil, membre correspondant de l'Académie nationale de pharmacie, membre de l'Institut universitaire de France, philosophe des sciences particulièrement, et aussi un fin connaisseur de la philosophie islamique et de la philosophie contemporaine. J'allais vous poser une autre question, mais c'est vos propos à propos du relatif au salafisme. D'aucuns disent que cette activation a fonctionné pour les Lumières et pour la Renaissance, et elle apparaît comme oxymorique de parler d'un salafisme pour la modernité, donc un salafisme moderne, quand il s'agit de la religion islamique. Est-ce qu'il y a une spécificité à cette tradition religieuse ou c'est la manière d'activer les ressources des pieux anciens qui est problématique?
Oui, alors merci, cette question très très importante qui revient de manière récurrente comme un leitmotiv et parfois même, je dirais, comme une crampe mentale, quelque chose qui...
Comme l'aurait dit Wittgenstein,
la crampe mentale, il l'a défini ainsi, tenter de penser l'impossible et ne pas y arriver. Alors effectivement, ça donne des crampes. Je pense que le dialogue qui a eu lieu historiquement autour des années 1885 entre Ernest Renan et Jamel Din Afrani est intéressant de ce point de vue-là. Ernest Renan dit, en gros, écoutez, tout ce que les Arabes dans l'histoire ont produit n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous au niveau du concevoir, au niveau de la réflexion à proprement dite, mais ils ont quelque chose de spécifique qui est la religion, et il faut chercher la spécificité du côté de la religion.
Et il ajoutait que Dieu et Dieu, c'est leur tautologie et nous ne sommes pas sortis de cette tautologie.
Voilà, et cette tautologie précisément aurait duré selon lui depuis 600 ans depuis la mort d'Averroès. Et moi je dis toujours, peut-on penser que les gens se gargarisent simplement d'une répétition Dieu et Dieu sans acheter le pain le matin, manger, régler les situations juridiques entre eux, c'est vivre tout simplement avec tout un contexte ignoré. Et Jamal Din Afrani, justement, dit, mais écoutez, pourquoi l'islam serait-il à part de ce qui est advenu historiquement des autres religions? Toutes les religions évoluent vers une forme de sécularisation. C'est-à-dire, alors il précise les choses, c'est conformément pleinement à ce message d'Al-Farabi, d'Al-Kindi, d'Averroès, c'est-à-dire qu'il y a toujours une hybridation du sacré et du profane. C'est comme ça que les gens engagés dans une religion le vivent. Ce n'est pas parce qu'une religion est visible au niveau du sonore, la mosquée, au niveau du visuel, qu'elle régit toute la société. Paul Veyne, comment le monde est devenu chrétien, le monde romain est devenu chrétien, sur 4 siècles, il indique combien la religion n'a jamais eu l'exclusive de régir toute une société. Et je pense que cela est tout à fait vrai pour l'islam, y compris aujourd'hui, et aux grandes dames des salafistes, on ne peut pas nier que la femme arabe participe à l'espace public, la femme arabo-musulmane participe à l'espace public beaucoup plus que dans les années 60 et 70. Les femmes sortent, les femmes travaillent, les femmes ont une gestion de leur foyer. Et donc, si vous voulez, il y a une marche historique vers la conquête de l'espace public qui se fait effectivement dans la douleur et dans le conflit, mais qui rejoint ce qui se fait un petit peu partout. Et l'islam, par les salafistes, cherche à contrecarrer cette évolution. Mais, comme dirait si bien Rousseau, on ne peut pas revenir en arrière dans une situation. Il parlait pour l'état de nature. Il disait le retour à l'état de nature est un mal si grand que seul le diable peut le vouloir, effectivement.
Et donc la sécularisation est en marche,
oui.
Et quelles que soient les velléités maintenant des salafistes, ça ne pourra pas la contrecarrer.
Non, parce que précisément, ils ont à se rendre compte à un moment donné que, effectivement, dans la vie des gens de tous les jours, la religion ne gère pas tout. La religion, elle est toujours très respectable dans tout ce qui est piété, sentiment religieux. Il y a beaucoup de gens qui ignorent tout des dogmes, mais qui sont pieux, qui ont un cœur simple, comme dirait Flaubert. Et ça, c'est tout à fait respectable. Averroès disait, quelqu'un dit Dieu est au ciel, eh bien, ne le contredisez pas. Parce que si vous commencez à lui dire « mais le ciel est un corps et Dieu est incorporel », vous allez le déstabiliser sans lui donner les moyens de comprendre. Parfois, il y a une forme de contentement rhétorique qui s'accompagne de cette piété que les gens vivent tout à fait ordinairement. Et de ce point de vue-là, il n'y a rien à redire. Alors après, quand on prend la religion non pas comme piété, mais comme organisation exclusive de la société, ça coince partout, ça produit des conflits et des assassinats, et ça, c'est inadmissible. Mais l'histoire, vous allez peut-être me juger très optimiste, mais l'histoire ne va pas dans le sens de cette gestion exclusive de l'espace public par la religion.
L'optimisme est de volonté, le pessimisme étant d'humeur, et pour certains, c'est le paroxysme du réalisme, mais je ne dirai jamais de vous, professeur Ben Mahlouf, que vous manquez de réalisme, bien au contraire. La conversation avec vous, vous qui avez écrit un ouvrage intitulé « La conversation est tout un art, l'art de converser », c'est plus qu'un entretien, puisque nous allons un peu dans les ramifications et nous revenons au tronc commun de cette discussion. Et il s'agit d'Al-Farabi, donc on revient au Xe siècle, même si la tapisserie des siècles nous a amené à parler un peu de Soléman le Magnifique et à parler aussi de nos difficultés contemporaines. Un mot peut-être sur son intérêt, l'intérêt d'Al-Farabi au Xe siècle, des lois de Platon, ce que son successeur plus tard, Averroès aussi, va voir comme un intérêt réel quand il fait son commentaire moyen de la République de Platon. Donc l'un et l'autre s'étaient intéressés à l'organisation de la cité et encore une fois aux lois qui la régissent.
Et il est vrai que ces deux textes sont très importants parce qu'ils sont assez rares finalement, parce que la préoccupation majeure de ces philosophes durant donc ces siècles-là du 9e au 14e siècle jusqu'à donc Ibn Khaldun, c'était quand même des préoccupations surtout logiques, métaphysiques, physique, arithmétique, médecine, bien évidemment. Donc, le commentaire sur les textes politiques n'ont pas autant de poids, je dirais de poids physique, lourd, que ces autres commentaires, au point que, par exemple, Ali Abdelrazik, le grand théologien de très philosophe de l'Égypte en 1925, avait dit, mais...
Dans ses fondements, l'islam et les fondements du pouvoir.
Voilà, avait dit, et on a manqué dans la culture arabo-musulmane d'une véritable documentation des sciences politiques. Alors là, du coup, ces deux textes sont celui que vous avez cité, le commentaire moyen de la République de Platon et le commentaire des lois d'Al-Farabi, sont extrêmement précieux parce qu'ils sont denses conceptuellement. Et pour revenir donc au résumé des lois de Platon, les lois de Platon, c'est une dizaine de volumes. Al-Farabi en fait un condensé. Il suit Platon dans son argumentation, la contractant au maximum, et il est très intéressé par la manière de commenter tout en présentant ses vues. Donc ça, c'est ce que Léo Strauss, encore lui, avait appelé la persécution et l'art d'écrire, parce qu'il commence l'introduction de ce texte, parce qu'il a quand même conscience qu'il va parler de la loi divine. Selon Platon, la loi de Minos, fils de Zeus, qui est donc une loi de législation, on s'inspire de Dieu, donc ça c'est vraiment l'élément grec, que la philosophie hébraïque et la philosophie musulmane ont véritablement bien repris en l'adaptant à la loi issue des sources révélées. Et précisément, il avance sur des œufs, si je puis dire, parce qu'il va parler de la loi divine selon Platon à son public de Bagdad qui entend la loi divine selon la révélation. Et c'est pour ça qu'il met en préambule à son commentaire cette belle anecdote autour de la Sète que tout le monde cherche parce qu'un édit du sultan veut le condamner et qui parvient à s'échapper de la cité tout en ne reniant pas sa pensée, parce que quand le garde de des remparts lui dit « Qui es-tu ?», il dit « Je suis celui que tout le monde cherche, mais ça semble pas crédible. » Donc on peut dire la vérité tout en sauvant sa peau, si je puis dire, sans avoir à mentir. Et l'enjeu, si vous voulez, d'écrire sur ces questions brûlantes pour eux, aussi bien le Farabi qu'Averroès, et me semble-t-il toujours d'une grande, sinon actualité, au moins effectivité dans l'ordre de la réflexion.
Merci infiniment à Ali Ben Makhlouf. Merci d'être venu nous parler de philosophie, et notamment à Bagdad au Xe siècle, et à travers l'esprit universel et le génie qu'était Al-Farabi. C'était question d'islam. Chers amis auditeurs, vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Alain Joubert. La réalisation est toujours assurée par l'ami Franck Lilin.